Chaque mois, nous nous retrouvons nombreux lors d'un rendez-vous téléphonique avec l'association Un regard pour toi qui soutient les non-voyants. Découvrir, décrire, déchiffrer. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation de juillet 2021. Elle nous conduit ici à la Bourse de commerce, cet édifice riche de 5 siècles d'histoire, magnifié aujourd'hui par le geste architectural de Tadao Ando. S'y tient actuellement l'exposition d'art contemporain intitulée « Ouverture », elle nous offre à voir une partie de la collection Pinault. Partons flâner les yeux fermés avec un regard pour l'art. Nous sommes au cœur de Paris, dans le premier arrondissement, entre le centre Pompidou et le musée du Louvre, devant la bourse de commerce de rue de Viarmes. Au sommet d'un mât doré à la feuille d'or, un drapeau s'élève dans le ciel. Le vent s'engouffre. Le son de l'air dans la toile se mêle au bruit de la ville. Une girouette, d'une très grande finesse, le laisse osciller légèrement et librement sur son axe. La lumière joue sur sa matière très particulière, étincelante, évoquant tour à tour l'eau et le métal. Le ciel est nuageux d'un gris sombre. Ce long rectangle vertical s'y détache par sa brillance. Par ses reflets et ses ondulations, il donne vie aux couleurs du ciel. Ce drapeau n'est pas seul. Deux autres mâts signalent la présence de la collection Pinault sur cette place publique. Ces mâts reposent sur une importante base noire qui s'inspire du rocher. Ces rochers que l'on aime à escalader avec un plaisir d'enfant. Ces mobiles urbains, à la fois sculpturaux et immatériels, miroitent les alentours. Agités par le vent, leurs contours se fondent dans l'air, leur forme se dissout. Nous les devons aux frères Bouroulec, en charge du mobilier extérieur et intérieur de l'édifice. Ils nous livrent quelques éléments de la jeunesse de ces drapeaux, de ces étendards. Imaginez une solution qui étonne. Apporter une charge de lumière à un environnement certes beau, mais très gris. Apporter sensualité et surprise. Créer une atmosphère, une harmonie. Susciter l'émerveillement, ce sont leurs mots. Ces trois mâts pointent ce nouveau lieu à voir, à lire, à écouter, qu'est la bourse de commerce qui abrite la collection Pinault. Nous avançons maintenant vers ce bâtiment de plan circulaire qui prend place dans un véritable écrin architectural dessiné par les façades courbes des immeubles avoisinants. Ce site, qui fut toujours à la pointe de la nouveauté ou de l'innovation, garde aujourd'hui les marques de 5 siècles d'histoire parisienne. Dans le dernier quart du XVIe siècle, l'architecte Jean Bulhand érige à la demande de Catherine de Médicis la première colonne isolée de Paris, sur le modèle de la colonne Trajane. Quelques 150 ans plus tard, en 1748, cette icône du paysage parisien haute de 31 mètres est menacée de destruction. Sauvée grâce à l'intervention de l'écrivain Louis Petit de Bachaumont, elle reste aujourd'hui le témoignage de la première mobilisation de l'histoire du patrimoine. À l'origine, construite afin de permettre à l'astrologue de Catherine de Médicis de faire ses prédictions, elle accueille maintenant en son sommet l'œuvre de Philippe Parrainaud. Une œuvre qui utilise la lumière pour coder le texte du roman inachevé intitulé « Mente analogue » de l'écrivain René Daumal. Poursuivons notre parcours à travers les siècles. Nous sommes dans les années 1760. Nous sommes face à la halle au blé. Nous en devons la construction à l'architecte Nicolas Le Camus de Mézières. C'est peu de plaire aux yeux, dit-il. Il faut émouvoir l'âme. Il s'agit ici de stocker le blé au cœur de Paris afin d'éviter les famines. Il s'agit également de le faire de façon ostentatoire, de montrer au peuple que le pouvoir prend soin de lui. Citation de l'architecture antique, dont la référence est tant prisée au siècle des Lumières, cette halle est innovante. Cette halle est innovante par son plan radical, circulaire, à la fois symbole de perfection et vecteur des idées démocratiques. Loin de la traditionnelle halle nef, nous sommes face à une halle annulaire. Une galerie d'arcades cerne un vide central, une vaste cour circulaire. Cette halle est innovante par les techniques de construction utilisées. Sa voûte annulaire associe chaînage en pierre, parois de briques et éléments métalliques afin de protéger le bâtiment des incendies. Cette halle est innovante par ses aménagements intérieurs. La conception des arcatures et des baies à l'étage assure une bonne ventilation, un éclairage naturel. Deux escaliers à double révolution, à l'est et à l'ouest, ouvrage à la géométrie savante, permettent aux manutentionnaires montant les sacs de ne pas croiser ceux qui descendent. L'un de ces deux escaliers sera conservé quelques cent ans plus tard par l'architecte Henri Blondel et respectueusement prolongé jusqu'au troisième niveau. La cour circulaire de cette halle annulaire reçoit une coupole. Une coupole en bois en 1782. 1802, c'est l'incendie. Au tout début du XIXe siècle, en 1811, les idées pionnières de François-Joseph Bélanger, François Brunet et Jacques-Ignace Itorf triomphent. La Bourse du commerce reçoit cette fois une coupole métallique, de cuivre, couronnée d'un lanternon. Elle est le symbole fondateur du siècle de l'industrie. Mais la halle au blé connaît un déclin. Avec le développement du chemin de fer, le besoin de stocker dans la ville se fait moins pressant. Cela mène à sa fermeture en 1873. Avançons encore dans le temps. 1889, centenaire de la Révolution, nous sommes sous la Troisième République. Le 24 septembre 1889, Exposition universelle de Paris. Le 24 septembre 1889, inauguration de la Tour Eiffel. Le 24 septembre 1889, inauguration de la Bourse de commerce, fruit de la transformation de la halle au blé par l'architecte Henri Blondel. On y fixe désormais les cours des matières premières. Nous sommes au début de la mondialisation, en pleine période de colonisation. La nouvelle coupole témoigne du savoir-faire de la charpente métallique française. Remplaçant la couverture en cuivre par une couverture en ardoise à mi-hauteur, l'architecte a pu ménager une vaste verrière centrale, vivement célébrée. La partie inférieure de la coupole est maçonnée pour recevoir sur une immense surface le panorama du commerce, réalisé par 5 artistes sur une gigantesque toile marouflée. À l'austère nudité de la halle au blé succède le décor fin 19e, s'inspirant du modèle renaissant et de la colonne Médicis, due à Jean Bullon, toujours présente sur le site. Un portique massif, monumental, est ajouté. Il marque l'entrée du lieu. Au sommet trône l'allégorie de la ville de Paris, veillant sur l'industrie et l'agriculture, sous le regard de deux poutis, symbolisant arts et commerces. Tout au long du XXe siècle, la Bourse de commerce remplit sa fonction sans modification importante. En ce début du XXIe siècle, suite à l'informatisation des marchés à terme, l'édifice devient le siège, pendant une vingtaine d'années, de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Mais en 2016, la mairie de Paris accorde à François Pinault un bail emphytéotique de 50 ans pour exploiter ce lieu et parachever ainsi la rénovation du quartier des Halles. La Bourse du Commerce s'apprête alors à abriter 6800 m² consacrés à la programmation culturelle. Elle connaît un nouveau geste architectural majeur. Il n'est pas visible de l'extérieur. Entrons pour le découvrir. Nous nous avançons vers ce portique monumental. Nous passons entre les deux paires de colonnes corinthiennes, vertigineusement hautes, qui soutiennent le fronton triangulaire. Leurs fûts cannelés sont surmontés de chapiteaux ornés de feuilles d'acanthe. Cette entrée monumentale impressionne. Elle inspire le respect. Les dimensions du vestibule, la mosaïque au sol où s'enchevêtrent les lettres B et C de la Bourse du Commerce, les boiseries où s'insèrent horloge et baromètre, les colonnes et les pilastres, les arcatures, les balustrades au-dessus des portes vitrées nous confortent dans cette impression. La qualité de la restauration est indéniable. L'ensemble de la Bourse de Paris est inscrite ou classée au monument historique. Le premier enjeu du chantier a été de conserver ce patrimoine. Cette mission fut assurée sous la houlette de Pierre-Antoine Gattier, architecte en chef des monuments historiques. Poursuivons. Après avoir franchi le contrôle de sécurité, nous sommes accueillis dans le grand salon par un immense tapis. L'une des questions permanentes de notre travail est celle de la qualité de l'atmosphère. Le visiteur doit se sentir important lorsqu'il entre dans la bourse. Nous voulons créer un environnement absorbant. Ce sont les mots de Ronan Bouroulec. Continuons notre progression. Nous nous arrêtons un instant devant ce tableau monumental de Martial Reiss, intitulé « Ici plage comme ici bain ». 9 mètres de long. Peinture d'histoire, scène de plage où s'invite l'étrange, parcours initiatique, message céleste, plongée dans une autre réalité. Laissons là ces couleurs vives et acidulées pour découvrir la rotonde que nous avions entreaperçue depuis le vestibule et qui nous appelle. La rotonde. Son échelle, 38 mètres de diamètre, 35 mètres de hauteur. Sa coupole, 20 mètres de diamètre, 44 000 ardoises. La présence du béton s'impose à nous dans toute sa force et sa pureté. Nous sommes maintenant confrontés au geste de l'architecte japonais autodidacte Tadao Ando. Dès la première réunion, Tadao Ando produit un croquis. Installer un grand cylindre en béton au centre de la rotonde, voilà l'idée. Simplicité, évidence, complexité extrême du projet. Je vous propose d'écouter maintenant un bref extrait de l'interview de François Pinault par Nicolas Demorand. Dans le grand entretien de France Inter, il répond à la question « Que lui avez-vous demandé ?»
Je ne lui ai rien demandé, je l'ai d'abord fait voir ce bâtiment. Tadao Ando était l'architecte qui n'a jamais appris l'architecture, il l'a appris sur le tas, j'allais dire. Et il est venu en Europe dans les années 60 et pour voir l'architecture européenne, qu'il ne connaissait pas ou qu'il connaissait mal. En fait, il voulait rencontrer Le Corbusier et aller à Rome voir le Panthéon de Rome. Donc il a été à Rome, il a vu le Panthéon. Et quand il est venu ici, je lui ai parlé d'un projet à Paris, quand il est rentré dans ce bâtiment rond comme le Panthéon, il avait les larmes aux yeux.
Il avait les larmes aux yeux.
Absolument.
Et pourquoi?
Parce qu'il était très ému, c'est le bâtiment en Europe qu'il a préféré, ce Panthéon. Il a retrouvé un peu la même chose, avec une verrière que n'a pas le Panthéon, comme vous le savez. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Il y avait d'abord une obligation de maintenir l'architecture ancienne, qu'il fallait la respecter, et qu'il invente un... qui donne un coup de crayon pour se tourner vers le 21e siècle et les siècles qui viennent. Mmh. Il est venu voir le lendemain avec un bout de papier, c'est là le génie du bonhomme, un coup de crayon, et il me dit voilà, c'est ça qu'il faut faire.
Et vous lui avez dit banco?
Ça peut un peu plus simple, je lui ai dit banco. Il m'a d'abord dit, je veux quand même te dire, je suis malade, j'ai plus de pancréas, il faut que je puisse le faire et que je puisse tenir tant que ça se termine. Mmh. Je lui ai dit écoute, on va y aller, ça va te tenir debout, et c'est ce qu'il a fait.
De l'émotion, rien. Quelques travaux. Nous voilà au pied du mur. La lumière de la verrière inonde le lieu. Nous pouvons choisir de faire le tour de cette enveloppe ronde, de ce cylindre de 9 mètres de haut, 29 mètres de diamètre et 50 cm d'épaisseur. Nous pouvons également pénétrer par l'une de ces quatre grandes ouvertures dans le monumental espace d'exposition qu'elle délimite. Le gris domine. Le gris du sol, un peu bleuté, le gris du mur, le gris de sa matière, le gris du béton. Je m'approche. Ma main glisse. Sensation de froid. Le mur est lisse, le mur est sablé. Ici et là, de très légères aspérités, bulles d'air, ondulations, matière sensuelle. Un courant d'air semble monter du pied du mur. Des dizaines de panneaux de béton d'une extrême régularité s'empilent, comme des tatamis mis à la verticale. Ils semblent posés sur une rigole. Les marques laissées par le coffrage, les trous laissés par les branches sont là. Bien présent, bien visible, bien régulier. Ils impriment un rythme à la paroi. Ils sont utiles. Le mur est creux. Son âme est creuse. Son âme creuse règle le traitement de l'air. Dans les trous des branches, des boîtes absorbantes participent à l'acoustique du lieu. Ces trous peuvent également servir à accrocher des œuvres. Nous sommes dans un lieu d'exposition. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes face à un mur lisse, un mur outil, un mur utile. Le bruit est omniprésent. Les voix se mêlent dans un brouhaha qui s'élève vers la verrière, le bruit de la halle. Le bruit de ces grands espaces couverts comme les marchés et les gares. À cet instant, une voix se détache, celle de la médiatrice qui présente l'œuvre, qui occupe l'immense espace circulaire délimité par ce mur. La lumière s'invite également. Un rayon de soleil transperce la verrière. L'ombre portée de celle-ci s'imprime sur le mur, sur le gris du mur, sur le gris du béton. Il prend ses teintes chaudes, dorées. Il s'anime. Quelqu'un passe, il change encore. La lumière est un matériau architectural. C'est ainsi que la conçoit Tadao Ando. Je voulais construire quelque chose d'introuvable ailleurs, bâtir un autre univers, à l'intérieur, notre monde à nous. Réversibilité. Le cylindre de béton s'insère dans la structure métallique de l'édifice sans l'altérer. Tadao Ando est très respectueux du bâtiment existant. Ce sont les mots de Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques. Minimalisme. François Pinault l'évoque dans ces termes. Écoutons-le.
On avait montré que le béton est un matériau noble et qu'on peut en faire des choses d'exception. Le travail Tadao Ando, c'est l'aspect minimal de sa création. Tout ce qui est nécessaire est là, tout ce qui est superflu n'est plus là. C'est comme l'art minimal. Regardez les œuvres de Ando, il y a tout ce qu'il faut, rien de plus.
L'architecte Tadao Ando s'explique sur ce matériau noble, sur ce béton. Son origine est française, nous dit-il. Elle remonte à la fin du 19e siècle. Son utilisation s'est ensuite généralisée à l'échelle mondiale. Ce matériau est aujourd'hui très commun. Le béton utilisé ici provient de la centrale Unibéton d'Aubervilliers. Pour Tadao Ando, le béton armé symbolise le rien, le néant. Pourtant, il n'est pas neutre. Il peut rendre la personne belle à son apparition devant le mur. Il revêt une autre ambiance quand une autre personne passe. Le mur accueille, il accompagne le sentiment de la personne. Il interagit avec le visiteur. Il répond ainsi au souhait de François Pinault. J'aspire à créer une architecture dont le mur est hospitalier. Car les hommes qui sont bien accueillis reprennent vie, reprennent force. Il ajoute. une architecture, ça doit faire tressaillir de joie. Tous les intervenants, du charpentier au maçon, du directeur de chantier à l'architecte et jusqu'à la société, tous doivent converger pour enfanter un bâtiment porteur d'espoir, pour susciter une effervescence, une exaltation. À travers la bourse du commerce, son espace circulaire, à travers la lumière zénitale pénétrant par la verrière, je voudrais évoquer le futur et dans le cercle de béton, l'espoir. Donner de l'espérance en créant un bâtiment, en faire un lieu où réside la liberté de penser. Enfanter. Il reprend cette image quand il évoque l'idée de revitaliser le monument. Il utilise ces mots. On sait que la naissance d'un petit enfant revigore les grands-parents. Il faut créer une architecture dans cet esprit, donner naissance à un enfant dans ce bâtiment vieux de plus de 100 ans. On doit donner naissance à un enfant. Émotion, courage, force sont aussi les mots qui reviennent tout au long de ces interviews. Créer une architecture qui touche les gens par sa beauté, une architecture dont le courage les frappe profondément, une architecture qui encourage les hommes, qui leur donne la force vitale, indispensable pour vivre longtemps. Pourquoi le cercle ? Il s'est imposé comme une évidence. Inscrire un nouveau cercle comme un arbre qui croît. Ses sources d'inspiration ? Le philosophe Kitaro Nishida, le chef de file du mouvement artistique Gutai, Jiro Yoshihara, et Platon. Toute ma vie, j'ai cru en l'éternité évoquée par le cercle. Je veux continuer d'y croire, dit-il. Cet enfant, ce cercle dans le cercle, ce geste architectural est source d'émotion. Il est un trait d'union entre le passé et le présent. Il engendre une perspective du futur. Il crée un espace plein de vie, où chaque œuvre pourra s'imposer avec force, où chaque visiteur pourra vivre sa propre expérience de l'art. Évoquons maintenant l'œuvre qui habite ce vaste espace circulaire et baigné de la lumière de la verrière. Ce vaste espace circulaire dessiné par ce mur de béton que nous venons d'évoquer, ce mur de béton de 9 mètres de haut. Au centre, une statue monumentale, posée sur un piédestal. Elle s'élève à 6,50 mètres de hauteur. Il s'agit d'une copie grandeur nature d'un chef-d'œuvre maniériste de la Renaissance, L'enlèvement des Sabines de Gian Bologna, datant de 1580, qui trône sur la Piazza della Signoria à Florence. Cette œuvre étonne. Ne sommes-nous pas dans un lieu dédié à l'art contemporain ? Cette reproduction semble être de marbre. L'œuvre est gracieuse. Sa verticalité guide notre regard vers le haut. Ses corps nus, enchevêtrés, entrent en dialogue avec ceux des sculptures représentées sur la toile marouflée du XIXe siècle, qui occupent tout l'espace inférieur de la coupole. Son socle lui donne une dimension, une échelle qui lui permet d'établir un dialogue avec l'architecture. La proportion entre l'espace et la sculpture est juste. La sculpture est d'une précision extrême, parfaite, hyper réaliste. Pourtant, elle est fragmentaire. Une odeur de bougie, des coulures de cire, des morceaux épars sur le sol. Oui, cette œuvre est en cire. L'œuvre est en train de fondre comme une bougie. L'artiste Urs Fischer nous dit « J'ai l'impression qu'en se détériorant, elle retourne au Moyen-Âge. En termes d'échelle, elle acquiert une forme éminemment gothique. » Au pied de cette scène d'enlèvement, de ce rapt, en train de fondre, une autre sculpture, un portrait en pied de l'artiste contemporain Rudolf Stingel. Une salle à l'étage est dédiée à ses peintures monumentales. Il a perdu la tête au sens propre du terme. Sa tête repose sur le sol, visage vers le haut. Lui aussi est en cire. Lui aussi a commencé de fondre. Son calme apparent contraste parfaitement avec l'agitation, la violence de la sculpture de marbre. Est-ce un hommage à l'artiste? Est-ce une blague? Les deux artistes, Urs Fischer et Rudolf Stingel, ont partagé un atelier à New York. Ils se connaissent bien. Ils sont amis. D'autres objets viennent occuper et remplir l'espace. Ou plutôt, habiter l'espace, comme le dit Urs Fischer. Ce sont des chaises. Cette chaise, plus vraie que nature. Tantôt traditionnelle, tantôt récente. Tantôt industrielle, tantôt empreinte de culture lointaine. Une chaise de bureau, deux chaises d'avion à coller, classe économique, des assises de cultures différentes, certaines trouvent leur modèle au musée du Quai Branly. D'autres semblent comme tombées de la fresque. Et puis, cette chaise monobloc. Vous savez, un de ces fauteuils de jardin de plastique blanc qui peuplent les pelouses du monde entier. Elle aussi se tord. Elle aussi fond et tend à disparaître. Urs Fischer, artiste suisse, 47 ans, vivant aux États-Unis, a utilisé de la cire pigmentaire pour obtenir un rendu hyper réaliste de tous ses matériaux. Marbre, bois, vêtements, plastique moulé. C'est intriguant. Voir l'œuvre se consumer devant nous nous renvoie à cette idée de l'impermanence des choses, du memento mori. Cette œuvre sera exposée jusqu'au 31 décembre. Que restera-t-il à cette date? Ce qui était formel devient informe. La femme gardien en charge de cette salle veille à ce que personne ne s'approche trop de l'enlèvement. Elle veille à ce que personne ne touche les fragments échoués sur le sol, comme les pierres d'un jardin zen. Patience et vigilance. Elle assiste, nous assistons, à la lente et inéluctable métamorphose de cette œuvre. Un geste de destruction créatrice. Martin Butenaud, directeur général délégué à la Bourse de Commerce, nous livre sa réflexion sur cette œuvre d'Urs Fischer.
C'est en fait une gigantesque bougie. Cette bougie va mettre en jeu l'un des matériaux les plus importants de cette sculpture, qui est le temps. Cette œuvre est faite et pensée pour changer, se métamorphoser au long du temps de l'exposition. Lorsque l'exposition va commencer, elle sera, telle qu'on la voit en ce moment, parfaite, précise, hyper réaliste. On va allumer les mèches et elle va commencer à couler et à fondre, de sorte qu'à la fin, il n'y ait plus rien. Plus qu'un amas informe, né du hasard. Le temps est donc l'un des matériaux principaux de cette œuvre. Au-delà de la sensation de l'espace, c'est à une sensation du temps qu'Urs Fischer nous invite.
Le temps est un des matériaux principaux de l'œuvre. Avant de quitter cette salle, nous jetons un dernier regard vers le haut. Des oiseaux nous fixent, des pigeons. Ce ne sont pas ceux qui ont peuplé l'édifice pendant les travaux. Ceux-ci sont immobiles, inquiétants peut-être. Ils sont une cinquantaine. Ils sont l'œuvre de Mauricio Catlan. Eux aussi assistent à la métamorphose de l'œuvre d'Urs Fischer. Arrachons-nous maintenant à ce vaste espace gris et lumineux dessiné par Tadao Ando, à cette œuvre fascinante d'Urs Fischer qui se consume doucement. Un choix s'offre à nous. Emprunter le passage qui longe le mur pour contempler les œuvres contemporaines de Bertrand Lavier. L'artiste, qui a eu carte blanche, a choisi de visiter les 24 vitrines en bois, 19e siècle, parfaitement restaurées, et d'y exposer des objets, des sculptures, qui questionnent le statut de l'œuvre d'art. Nous pouvons également monter aux étages supérieurs pour avoir une vue plongeante sur l'œuvre d'Urs Fischer, pour contempler de plus près le dôme, le panorama du commerce et la verrière, pour visiter les galeries du premier et du deuxième étage, pour entendre le brouhaha harmonieux des voix des visiteurs qui se mêlent et se reflètent sur le mur cylindrique de béton. Nous pouvons enfin suivre ce mur pour emprunter l'escalier qui s'enroule autour du cylindre et nous conduit au sous-sol. Nous sommes toujours en contact avec ce béton qui accueille, avec ce béton qui s'anime à notre passage. Nous arrivons au foyer de l'auditorium. Nous venons de quitter l'espace gigantesque et lumineux de la rotonde pour entrer dans un espace aux dimensions plus feutrées. Le plafond est relativement bas, les lumières tamisées. Une œuvre se déploie au sens propre du terme, sur toute l'étendue du foyer. Elle se déploie visuellement, mais également de façon sonore. Loin de l'élan vertical de l'enlèvement des Sabines, nous sommes maintenant dans l'horizontalité. Une horizontalité, une pénombre qui fait naître un sentiment de sérénité. Sur de basses estrades en bois sont disposés une multitude d'objets très divers, hétéroclites, mais liés par leur fonction musicale. Certains s'apparentent à des sculptures, d'autres à des vases en céramique blanche. Une perle suspendue vient frapper à intervalles irréguliers l'un d'entre eux. Sa forme pourrait nous faire penser à une glace à l'italienne. Il est posé sur un socle quadrangulaire vert pomme. Cette note de couleur vive est une exception dans la composition où blanc, beige, brun dominent. Là, nous croyons voir des dés à coudre ouverts aux deux extrémités. Ici, une autre bille oscille. Nous marchons dans un paysage d'instruments de musique, plein de mystères. Tricorde, optimètre, silberminus. Le bras d'un tourne-disque joue. Le traditionnel vinyle a été remplacé par un disque plat, de petite taille, en céramique brute, rustique, pleine d'aspérité. Le son est faible, irrégulier, comme un grattement. À côté de la platine, de nombreux disques plus ou moins similaires sont disposés méthodiquement. La céramique a la part belle. Là, un ordinateur est allumé. Parfois, un visage s'affiche à l'écran, des niveaux de son. Ici, un fagot de branches fines, irrégulières, fixé en hauteur à l'horizontale sur un bras mobile, vient caresser, effleurer la surface d'un objet en porcelaine cylindrique, creux, en rotation sur lui-même. Sa surface est animée d'un réseau d'arêtes verticales, parallèles et ondulantes, d'une extrême finesse. Elles viennent converger vers le haut. La lumière joue sur ses facettes blanches. Envie de toucher, envie de glisser nos doigts dans les creux de ces courbes ondoyantes, mouvantes. Envie de sentir la finesse, la fragilité de cette porcelaine blanche dont les plis ondulent. De petits objets métalliques, animés par le courant électrique, viennent teinter contre d'autres objets en porcelaine, toujours blanches, de taille plus petite, ou encore contre les disques de céramique brune déjà évoqués. De temps à autre, un mécanisme actionne des éléments d'une batterie. Le frottement de la sangle en cuir sur les cuivres les font sonner, ou plutôt teinter. Le son qui en sort est relativement aigu, vibratoire, mais très légèrement percutant. Nous voyageons dans ce paysage de surprise en surprise. Les instruments jouent seuls. Nos pas nous conduisent à en entendre l'un plus que l'autre. Notre déambulation participe à la composition. Les voix des visiteurs ajoutent une dimension. Des claquements, des bruits de machines, des rythmes réguliers, des sons qui évoquent le souffle, la respiration. Parfois, un vrombissement plus sourd se fait entendre à l'arrière-plan. La composition est présentée dans un seul espace. Le son circule d'un instrument à l'autre, les instruments dialoguent entre eux, les choses s'animent, Plus on regarde, plus on écoute, plus on déambule, plus on est fasciné par les sons, les rythmes, le séquençage. À travers une vitre, nous apercevons l'auditorium. Ces sièges confortables et avenants nous invitent. Installons-nous. Nous avons maintenant une vue panoramique de l'orchestre sculpté par Tarek Atawi. Sous ses doigts, le son se révèle matière à sculpter. Nous sommes au concert. Au concert de cette musique expérimentale qui conjugue la sculpture et les paramètres physiques du son. L'artiste Tarek Atawi est né à Beyrouth en 1980. Il se forme en France à la musique électroacoustique. Son œuvre, intitulée The Ground, datée de 2019, est le fruit de 5 ans de voyage, d'investigation et d'observation dans le delta de la rivière des Perles, en Chine. Il y a étudié les pratiques agricoles, architecturales et musicales, traditionnelles et contemporaines. Écoutons-le nous raconter son projet depuis sa genèse jusqu'à sa mise en place, ici, à la Bourse du Commerce.
C'est une œuvre qui a vécu avec moi et en moi pendant plusieurs années, beaucoup d'années durant lesquelles je faisais ces voyages à la région de Canton, en Chine, et où je me nourrissais de ces idées d'architecture traditionnelle, d'agriculture, de lutherie et de musique, et la philosophie de la musique, surtout celle des cordes, la musique des... Et ces idées-là se sont après manifestées dans différents projets, pas juste The Ground, des projets comme Within, qui est sur le son et la surdité, qui est un grand projet qui est très important pour moi aussi. Et sur The Ground, c'est je dirais... Afin que l'œuvre trouve sa forme finale, elle a été d'abord montrée sous une forme de laboratoire d'expérimentation. Donc des instruments ont été créés suite à ces années de voyage, puis partagés avec des musiciens d'horizons et d'origines diverses qui s'en sont emparés. C'est passé à une dimension performative, voir comment on peut jouer avec ces instruments et comment on peut composer de manière originale des situations collectives. Et enfin, ça a pris cette forme d'installation, que je dirais même de composition. Tout est écrit et composé et en dialogue sur cet instrumentarium et cette pièce. On peut autant l'approcher comme un espace d'écoute et sculpter sa propre écoute. Les composants de cette pièce se prêtent à des situations de concert, à des sessions, on appelle ça The Ground Sessions, de la situation d'écoute en mode installation à celle de jeu et de collaboration et d'improvisation. La palette est large.
Ces instruments ont une présence forte. Il a partagé ses recherches avec des fabricants d'instruments, des designers d'objets, d'autres musiciens. Comme il le dit lui-même, cet espace d'écoute peut inspirer à d'autres des idées de performance, de concert. Son œuvre est devenue un point de départ. À la Bourse de Commerce, des performances, des ground sessions, comme les qualifie l'artiste, se sont tenues les 25 et 26 juin 2021. Par ce voyage, j'espère vous avoir donné envie de découvrir la Bourse de Commerce qui vous propose plusieurs expériences, comme nous l'explique Jean-Jacques Ayagon, directeur général de la Pinault Collection.
Demain, le visiteur qui viendra ici pourra bénéficier de plusieurs expériences. Tout d'abord, une grande expérience patrimoniale de la rencontre avec un bâtiment très peu connu, un bâtiment magnifique, magnifiquement restauré par un grand architecte des monuments historiques, par Pierre-Antoine Gatier. Une expérience architecturale extraordinaire grâce à la rencontre qu'on lui proposera avec le travail de l'un des plus grands architectes de notre temps, Tada Ando, qui s'est appuyé sur une équipe de jeunes architectes parisiens, l'agence NEM, Lucie Ninet, Thibaut Marca. Ensemble, ils ont travaillé à mettre en forme ce concept architectural extrêmement fort qui consiste à installer dans un bâtiment rond, avec une enveloppe extérieure ronde, une enveloppe intérieure ronde, un troisième cercle, un troisième cylindre, un troisième rond en béton, dans le respect du vocabulaire architectural de Tada Ando. Et enfin, le même visiteur aura une troisième expérience, une expérience artistique, celle de la rencontre avec des œuvres de notre temps, avec l'une des grandes collections d'art contemporain de notre temps, la collection de François Pierre.
En d'autres mots, j'espère vous avoir donné envie de découvrir toutes les strates de ce monument où se joue avec force la rencontre entre le patrimoine et le geste d'architecture résolument contemporain de Tadao Ando. Un geste qui suscite émotion, courage, force. Une architecture qui, selon ses souhaits, se gravera dans nos mémoires, car ce qui se grave dans la mémoire des hommes, dit-il, est immortel. J'espère également vous avoir donné envie de visiter cette exposition inaugurale intitulée « Ouverture » qui se déploie dans ce lieu hors du commun et nous invite à une expérience multisensorielle. Comme en atteste l'œuvre de Tarek Attaoui qui nous a accompagnés dans cette déambulation et combine l'aspect visuel, tactile, sonore. Pour conclure, un petit mot sur le choix du titre de cette exposition. Ouverture. Ouverture car le lieu ouvre, mais aussi ouverture car c'est l'esprit de la collection Pinault qui mise sur la diversité. Diversité des générations, des origines, des disciplines. Une collection qui est ouverte sur le monde, qui est ouverte sur la vie. L'une des vertus de la relation à l'art réside dans les perspectives qu'elle ouvre. C'est cette expérience que je souhaite partager avec le plus grand nombre. J'ai souhaité que cette exposition soit le manifeste des valeurs que j'ai toujours défendues, la soif de liberté, la révolte contre l'injustice, l'acceptation de l'autre. Des qualités qui sont essentielles, l'audace, la curiosité et l'humilité, et des questions qui me taraudent, l'impermanence, la vanité, le temps qui passe, nous dit François Pinault. Nous assistons ici au premier acte des accrochages à venir, qui nous feront découvrir progressivement les 10 000 œuvres de la collection Pinault. Cette édition est très riche, à ne pas manquer.